Le journal, présenté par Alexandra Duboucheron.
Bonjour à toutes et à tous. Direction l'Indonésie où le bilan s'alourdit au fil des heures après le passage d'un tsunami dans la soirée sur les côtes de Java et de Sumatra. 168 personnes ont été tuées, plus de 700 blessées. Il y a des dizaines de disparus selon les autorités il y a quelques minutes. Ce raz-de-marée a été provoqué par une éruption sous-marine dans le détroit de la Sonde. Les précisions de Joël Brunner, notre correspondant sur place.
Il était un peu plus de 21h ce samedi lorsque l'anak Krakatau est entré en éruption. Ce volcan indonésien forme une petite île nichée au cœur du détroit de la Sonde. D'après les premiers éléments fournis par les autorités, des glissements de terrain sous-marins auraient alors provoqué une onde de choc qui a frappé les terres environnantes à la fois de Java à l'est et de Sumatra au nord, sous la forme d'un tsunami. Les premières images de destruction, reprises par les autorités, laissent notamment voir un hameau de bord de mer où les maisons les plus proches de l'eau ont été saccagées par les flots. Une voiture y est par exemple fichée dans un mur, alors que plusieurs habitations environnantes sont réduites à un tas de décombres écroulés sur le sable. Anak en indonésien signifie l'enfant. Cette anak a été mise au monde plus ou moins directement par un autre volcan, le Krakatau, l'un des plus célèbres d'Indonésie. En 1883, son éruption gigantesque avait ainsi entraîné la mort de plus de 30 000 personnes. À l'époque, le très grand nombre de cendres projetées dans l'atmosphère avait même affecté le climat mondial, créant, en Europe en particulier, une sorte d'interminable hiver.
Joël Brunner de RFI pour France Culture. L'actualité en France, c'est cette baisse de la mobilisation des gilets jaunes avant la trêve de Noël. Il n'était plus que 38 600 hier dans les rues et sur les routes de France, mais aussi aux frontières pour leur sixième samedi de contestation. 38 600 contre 66 000 le week-end dernier. Pas satisfait des reculs et des mesures annoncées par le gouvernement, la plupart réclament désormais la mise en place d'un RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Moins nombreux mais mieux organisés, c'est ce qu'a constaté Delphine Evenou dans les rues de Paris où 2000 gilets jaunes se sont montrés particulièrement mobiles.
De la butte Montmartre, point de départ donné à la dernière minute, aux Champs-Élysées, pas de cortège à proprement parler.
On parcourt les rues de Paris et quand il y a un mouvement de gilets jaunes, on s'arrête, on leur file un coup de main. Et puis si ça disperse, on va ailleurs, on se pointe dans Paris et voilà, juste être là, présent.
Toute la journée, on a marché. Quand la police était à droite, on était à gauche. Et puis inversement, quand c'était à gauche, on était à droite. L'idée, c'est de marcher dans la rue pour pas se faire bloquer dans des nasses comme on a été bloqué 2 semaines de suite. Et c'est après de se faire tirer dessus au flashball ou au lacrymo par les CRS, la gendarmerie mobile, etc. Et donc du coup, de poursuivre notre mouvement en toute simplicité et pacifiquement.
Destination floue, les gilets jaunes arpentent par petits groupes le pavé, sur les trottoirs ou sur la chaussée, à côté des voitures, pas à l'arrêt, comme fondu dans le paysage et pas décidé à rentrer.
Tous les samedis, j'y suis. Tant que Monsieur Macron... ne démissionnera pas, on sera toujours là présent et on lâchera rien.
Car les annonces du président il y a 2 semaines n'ont pas convaincu les irréductibles.
Nous on ne veut pas se contenter des petites mesures, des 100 euros qui ne vont même pas du tout suffire. Lui, ça a un changement, changer le système.
Jérémy réclame à minima le référendum d'initiative citoyenne sans savoir vraiment, comme beaucoup d'autres, si cela suffira à le faire rentrer chez lui.
Hier, 220 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations un peu partout en France. Il y a eu 81 gardes à vue, chiffre donné par Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur, qui appelle au retour au calme et qui dénonce aussi l'agression de 3 motards de la police sur les Champs-Élysées à Paris en fin de journée. Les images tournent en boucle sur Internet. On y voit les agents répliquer à coups de matraque, de gaz lacrymogène et de coups de pied. L'un d'eux a même brièvement sorti son arme de service. Dans leur fuite, ils ont été contraints d'abandonner l'une des motos restées à terre. Et puis le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, réclame des sanctions à l'encontre de certains manifestants qui se trouvaient à Montmartre, à Paris hier, et qui ont entonné la chanson « La quenelle » de Dieudonné, signe de ralliement anti-système mais aussi antisémite. Sur une vidéo, on voit également des saluts nazis. Le djihadiste français Peter Chérif est arrivé en France ce matin. Il a aussitôt été placé en garde à vue, c'est ce qu'indique Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Ce proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, a été arrêté la semaine dernière à Djibouti. Les 311 migrants secourus en mer Méditerranée par le navire de l'ONG Pro Activa Open Arms passeront Noël en mer après les refus de Malte et de l'Italie et le silence de la France. L'Espagne a accepté d'accueillir le navire hier. Il devrait accoster d'ici 5 à 6 jours à Algeciras. Aux États-Unis, l'émissaire pour la coalition internationale anti-djihadiste démissionne, comme le ministre de la Défense il y a quelques jours, Brett McGurk. McGurk n'a pas supporté la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines américaine de Syrie. L'offensive contre les médias se poursuit au Nicaragua. En fin de semaine, le régime de Daniel Ortega a fait arrêter deux journalistes et le directeur d'une chaîne de télévision, la chaîne 100% Noticias, déjà plusieurs fois censurée. Le directeur a été écroué hier. Il est accusé de conspiration et de terrorisme. C'est le dernier épisode d'une vaste offensive du pouvoir contre les organisations des droits de l'homme, les opposants et les médias, un peu trop critiques. Geneviève Garrigos est membre d'Amnesty International Amérique Latine.
Ortega utilise les forces de police et les paramilitaires pour tirer et tuer les opposants et les manifestants. Il a suspendu le mandat du groupe d'experts interdisciplinaires indépendants de la Commission interaméricaine des droits de l'homme parce que dans son rapport, ce groupe d'experts précisait qu'il y avait des crimes contre l'humanité qui avaient été commis par le président Ortega. Et cela parce que il a utilisé toutes les forces de police et les parapoliciers pour mener une répression avec pour objectif non pas simplement de dissuader mais réellement d'arrêter et d'assassiner tous les opposants.
Alors comment expliquez-vous que le président Ortega s'en prenne frontalement à ses opposants, à tout ce qui est défenseur des droits de l'homme et presse?
Les ONG sont aujourd'hui dans sa cible puisque au 13 décembre, par décret encore, il a arrêté les activités de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme telles que la CNIDH et aujourd'hui c'est plus de 9 organisations qui sont interdites. On voit bien que Ortega, qui dispose d'appui important au niveau international, continue à pouvoir réprimer pratiquement en toute impunité. Mais c'est pourquoi Amnesty International en appelle aux instances internationales pour qu'il y ait vraiment des enquêtes judiciaires aujourd'hui. Et s'il y a crime contre l'humanité, Ortega doit en rendre compte.
Geneviève Garrigos, jointe par Nadine Epstein pour France Culture. L'île de Cuba reconnaît l'économie de marché sans renoncer à son idéal de société communiste. Le Parlement a adopté la nouvelle constitution hier à l'unanimité. Elle sera soumise à référendum le 24 février. La météo de ce dimanche, nouvelle perturbation pluvieuse de la Normandie à l'Alsace. Le ciel restera couvert de la Bretagne aux Alpes et dans la vallée de la Garonne. En revanche, le soleil s'impose près des Pyrénées et autour de la Méditerranée. Ce matin, les températures seront comprises entre 4 et 14 degrés.